Bonjour à tous. Aujourd'hui, retour sur les révélations que nous vous avons faites hier matin. Areva a laissé forger la cuve de l'EPR de Flamanville alors qu'on l'avait averti que son usine n'était pas aux normes pour le faire. Nous allons donc voir comment on a pu en arriver là avec votre enquête. Sylvain Tranché, bonjour.
Bonjour Jacques.
Et puis nous recevrons Marc Roche en duplex de Londres. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous publiez un livre enquête sur le marché du diamant, un marché qui s'est considérablement, on va le voir, transformé ces dernières années.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
J'en viens à la situation des installations nucléaires. Il y a un an, j'avais été amené à dire que le contexte était préoccupant à moyen terme. Si j'avais à résumer ma pensée maintenant, c'est que le contexte est préoccupant.
Alors celui qui parle ainsi, c'est Pierre-Franck Chevet. C'est le patron de l'autorité de sûreté nucléaire, qu'on appelle aussi le gendarme du nucléaire. Il présente ses vœux, c'est en janvier dernier. Et il tire la sonnette d'alarme, notamment parce que la cuve de l'EPR, qui est en construction à Flamanville, n'est pas conforme aux normes de sécurité. Alors pour être très clair, et pour commencer, Sylvain Tranché, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on lui reproche précisément à cette cuve?
Alors, cette énorme pièce, hein, il faut visualiser, c'est haut comme un immeuble de 3 étages, ça fait le poids d'un Airbus A380, elle a un problème de qualité de métal en 2 endroits, sur le fond et sur le couvercle. Ces 2 éléments sont en acier, l'acier c'est un mélange de fer et de carbone, mais attention, très peu de carbone. Et là, le problème, c'est qu'il y en a un tout petit peu trop. Petite proportion, mais grandes conséquences potentielles, nous explique Yves Marignac, expert critique du nucléaire.
On est sur une cuve en acier qui contient normalement 0,2% environ de carbone. Là, c'est une concentration de plutôt 0,3%. Ça suffit pour modifier les propriétés mécaniques de l'acier et en particulier pour influencer la température à laquelle il devient moins souple et plus cassant.
Plus cassant, c'est-à-dire qu'en cas de changement de température, l'acier de la cuve pourrait casser?
Exactement. Alors, c'est une hypothèse, hein. En fait, dans l'état actuel des choses, on est sûr de rien. Thierry Charles de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, qui a suivi ce dossier, m'a expliqué précisément quel était le problème.
On a un matériau dont la composition n'est pas celle attendue et on peut craindre qu'il y ait rupture lorsqu'il va être soumis aux conditions de pression et de température qu'il va subir dans le réacteur. Notamment, il peut y avoir des chocs chauds, des chocs froids, c'est-à-dire vous avez de l'eau froide qui arrive sur une pièce chaude, ou inversement, de l'eau chaude qui arrive sur une pièce qui est plus froide, et qui, par son action, peut conduire à propager la fissure, s'il y en a une, et donc aboutir à une rupture, une cassure du matériau.
Oui, donc si je comprends bien, on a un risque de voir la cuve se fissurer en cas de changement brutal de température. Et si c'était le cas, quelles conséquences ça pourrait avoir?
Des conséquences très graves, hein. D'autant plus graves que le scénario de rupture de la cuve n'a pas été imaginé. Dans les centrales nucléaires, on considère que la cuve résiste quoi qu'il arrive.
Ah oui, d'accord, oui, plutôt inquiétant quand même. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à forger une cuve dont certains éléments donc sont potentiellement défectueux?
Alors, pour le comprendre, je vous emmène là où elle a été fabriquée, au Creusot, dans le sud de la Bourgogne. C'est l'un des berceaux de la sidérurgie française. On y fait de la fonderie depuis 1782. C'est le pays des maîtres des forges, les Schneider, le baron en pain. Et l'acier, là-bas, c'est bien plus qu'une industrie, m'a raconté un conseiller municipal du Creusot, Pierre-Étienne Graffard.
Au Creusot, l'industrie, et en particulier la forge, fait partie intégrante de notre ADN, j'allais dire. Ça fait partie de la ville dans son infrastructure. On ne peut que contourner l'usine qui est au centre de la ville. Le Creusot s'est bâti et s'est développé autour de la forge. Donc l'industrie au Creusot, c'est pas simplement une image, c'est tout simplement la vie.
Oui, c'est la vie, sauf que la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille. La forge va connaître quand même quelques difficultés.
Oui, dans les années 80, hein, la sidérurgie est en crise, au Creusot comme ailleurs. C'est la faillite retentissante de Creusot-Loire. La forge va être menacée de fermeture, elle va changer de main plusieurs fois, jusqu'en 2003, où elle va atterrir dans l'escarcelle d'un homme d'affaires, Michel-Yves Bolloré. C'est le frère aîné de Vincent. Et ses objectifs n'étaient pas à proprement parler industriels, m'a expliqué René Dumont, qui était le directeur de la forge à son arrivée.
L'objectif était financier, il n'était pas spécialement technique. Je n'ai pas pu lui faire parler de stratégie industrielle. J'ai donc été mis sur la touche très vite et je suis parti. Les gens qui connaissent bien le boulot s'en vont, quittent et ne sont pas vraiment remplacés, n'ont pas le temps de former des remplaçants, des gens qui vont prendre leur place. Bon, il restait un certain nombre de techniciens qui avaient une bonne connaissance de la forge, mais de cadres, il n'y en avait plus.
Alors précisons que Michel-Yves Bolloré n'a pas souhaité commenter ses propos, mais plusieurs témoignages m'ont confirmé qu'à cette époque-là, l'usine connaît de gros problèmes de qualité, on voit arriver des sous-traitants qui connaissent mal le métier, la forge est mal entretenue, certains bâtiments prennent l'eau et il y a une perte de savoir-faire.
Oui, pas très reluisant le tableau que vous nous décrivez là. Donc on parle en fait de 2003 et ensuite que se passe-t-il ?
3 ans plus tard, Michel-Yves Bolloré revend la forge à Areva. Mais écoutez bien, cette usine et son atelier de mécanique qui lui avait coûté environ 800 000 euros, il les revend 170 millions d'euros.
Pardon ? Il multiplie son prix d'achat par 20 ?
Oui, c'est un tarif jugé aujourd'hui invraisemblable par beaucoup de spécialistes du dossier. Areva lui rachète pour 170 millions. Et c'est un moment clé parce que c'est en 2006 que le couvercle et le fond de la cuve de l'EPR vont être forgés au Creusot. J'ai rencontré Jean-François Victor. Il a été proche de Michel-Yves Bolloré dans cette histoire avant de prendre ses distances avec lui. Et il nous éclaire sur le contexte de l'époque.
Nous sommes dans cette période où Bolloré est en conversation avec le groupe Areva pour la reprise de ses usines. Il est donc impératif pour lui, pour en tirer un prix maximum, de réaliser ces deux pièces. C'est là, si vous voulez, que Bolloré a su convaincre l'état-major d'Areva qu'il était en mesure de réaliser ces pièces. Alors que toutes les expertises qui sont intervenues après concluent qu'en fait, à cet instant précis de 2006, au moment où est lancée la fabrication du couvercle et du fond de cuve de Flamanville 3, les usines du Creusot n'avaient pas la capacité nécessaire à la réalisation de ces pièces.
Attendez, il est en train de nous dire qu'on a forgé des pièces pour le nucléaire alors qu'on n'était pas sûr d'être au niveau pour le faire.
Ça paraît incroyable, mais c'est la vérité. Mais le pire, c'est qu'on l'a fait en connaissance de cause. Et ce sont les révélations que nous faisons, pour Secret d'Info. Dès décembre 2005, presque un an avant la fabrication de la cuve, l'ASN écrit à EDF pour l'alerter des problèmes de l'usine du Creusot. Un courrier très clair que nous rendons public et dont Benoît Colomba nous lit un extrait.
Dans le cadre de sa mission de contrôle, le Bureau de contrôle des chaudières nucléaires a récemment constaté de nombreux écarts concernant le forgeron Creusot Forge. Ces éléments mettent en cause la qualité des travaux et de la surveillance de ses sous-traitants. Comme exploitant, il vous appartient d'exercer ou de faire exercer sur ce prestataire une surveillance.
Donc là, on entend bien que l'ASN effectivement demande à EDF de faire le nécessaire pour remettre de l'ordre dans la forge. Et ensuite, que se passe-t-il ?
Eh bien, EDF m'a affirmé qu'ils avaient pris des mesures, mais l'ASN ne le voit pas comme ça et écrit une nouvelle lettre en mai à l'électricien. Benoît Colomba nous en donne encore la teneur.
Comme je vous l'ai rappelé, il vous appartient d'exercer ou de faire exercer sur les prestations de Creusot Forge une surveillance. Ces incidents récurrents et l'absence de réaction de votre part ont conduit le Bureau de contrôle des chaudières nucléaires à organiser une inspection chez votre fournisseur Creusot Forge.
Et alors cette inspection, Sylvain, elle a donné quoi finalement ?
Eh bien, elle dresse 16 constats d'écart et irrégularités. Mais ça n'est pas tout. Fait assez rare, le patron de l'ASN de l'époque, André-Claude Lacoste, se rend sur place. Il rencontre les salariés du Creusot pour leur dire que ça ne va pas. Il m'a confirmé qu'il était revenu effondré, c'est son mot de ce qu'il avait vu. Du coup, il prévient Areva en lui disant « Votre fournisseur a des problèmes, changez-en ou rachetez-le ». C'est comme ça qu'Areva va racheter la forge du Creusot, mais ça ne change rien et la fabrication de la cuve est lancée.
Ouais, donc on a bien forgé des pièces essentielles pour le futur EPR de Flamanville dans une usine dont on savait qu'elle n'était pas équipée pour le faire. Mais alors, comment est-ce qu'on justifie ça chez Areva ?
Alors, je suis allé rencontrer David Aymon, c'est le directeur composant chez Areva NP, la division qui construit les centrales nucléaires. Mais je vais être honnête, je n'ai pas eu de réponse précise à mes questions. Toute l'interview s'est limitée à un message, la forge du Creusot est au niveau.
Le Creusot, c'est une usine qui est faite pour faire des forgés, des gros forgés pour l'industrie nucléaire. C'est une usine qui a été construite pour ça, qui est équipée pour ça, dans laquelle on a constamment et continuellement investi pour la mettre au meilleur niveau mondial. On a inauguré une nouvelle presse en 2014. Et aujourd'hui, notre analyse, c'est que cette usine, elle est capable de faire des forgés pour l'industrie nucléaire.
Mais est-ce qu'elle l'était en 2006 ?
Et donc, en 2006, Creusot était une forge qui était aussi faite pour faire des pièces nucléaires.
Il y a une petite hésitation qui semble en dire long.
Oui, d'autant que ce que l'on vient d'entendre est en contradiction totale avec ce que dit l'ASN aujourd'hui. Pour la première fois, l'autorité de sûreté nucléaire reconnaît que le site était bien dans son collimateur au moment où on forge la cuve de l'EPR. C'est ce que m'a expliqué son directeur général adjoint, Julien Collet.
Au début des années 2000, on observe une dégradation dans la maîtrise des procédés, une dégradation dans le traitement des écarts, également des rebuts qui augmentent, c'est-à-dire des pièces non conformes qui doivent être détruites. Et à cette époque-là, il y a l'ensemble des acteurs, qu'ils soient clients ou que ce soit l'autorité de sûreté nucléaire, qui mettent Creusot Forge sous surveillance renforcée. Forger une pièce, c'est quelque chose de complexe. Pour que ce soit un succès, il y a un certain nombre de parades, de mesures de prévention à mettre. Et ce qu'on constate, c'est qu'elles n'étaient pas toujours en place.
Mais Sylvain, si tout ce qu'on vient d'entendre là est vrai, pourquoi est-ce qu'on a quand même forgé la cuve de l'EPR ?
Eh bien, parce qu'il fallait montrer à tout prix qu'il y avait en France un champion du nucléaire. C'est en tout cas l'avis de David Cormier, chargé du nucléaire chez Greenpeace.
On a pris une décision sur la base d'une dissimulation d'informations. Parce que si on savait à l'époque que l'entreprise Creusot Forge d'Areva ne serait pas en capacité de produire des pièces pour un EPR à Flamanville, peut-être que l'utilité de construire cet EPR aurait été questionnée à nouveau. C'est-à-dire qu'on n'était pas en mesure d'avoir un industriel français, en l'occurrence Areva, capable de fournir des pièces, et peut-être qu'il aurait fallu aller le chercher à l'étranger. Et l'intérêt de l'EPR qui visait à avoir un produit français aurait peut-être été remis en cause à l'époque.
Et chez EDF, hein, on m'a bien confirmé qu'il était important pour le gouvernement à l'époque de garder une filière opérationnelle en France.
Et finalement, ça se termine comment ?
Eh bien, la cuve est livrée sur le chantier de Flamanville. Le 24 janvier 2014, elle est posée dans le bâtiment réacteur. Et ce qui devait arriver arriva. 9 mois plus tard, en octobre 2014, Areva appelle l'ASN pour lui dire qu'ils ont enfin fait des analyses et qu'elles sont accablantes. La calotte et le fond de la cuve ont une teneur en carbone trop élevée.
Ce qui paraît totalement incroyable et qui indigne du coup, y compris des élus qui ne sont pas forcément des militants antinucléaires.
Oui, c'est le cas de Jean-Claude Delalonde. Il est le président de l'Association nationale des CLI, les commissions locales d'information. Il y en a une par centrale nucléaire. Et lui, cette histoire, il l'a en travers de la gorge.
Comment est-il possible qu'une cuve ait été fabriquée et que sa fabrication faite, on ne l'a pas contrôlée avant de la mettre en place? On n'imaginait vraiment pas, mais vraiment pas, qu'on puisse arriver dans une filière nucléaire française pour laquelle on martèle depuis maintenant 50 ans que c'est la meilleure au monde. On me dit, attendez, vous nous avez, je vais être grossier, bourré le mou. Et c'est pas parce que je m'interroge que je deviens un anti-nucléaire ou un pro-nucléaire, mais j'aiguise des réponses.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu qu'on a confié la réalisation de la cuve de l'EPR de Flamanville à une forge en mauvais état qui n'était pas au niveau pour le faire. On a vu qu'on l'a fait en connaissance de cause et en dépit de plusieurs avertissements. Mais on va voir maintenant que le scandale ne s'arrête pas là, Sylvain Tronchet. Parce qu'on a ensuite falsifié des dossiers.
Oui, parce que suite au problème de la cuve de l'EPR, l'ASN demande à Areva de faire un audit complet de son usine du Creusot. Et là, en mai dernier, on découvre que des documents de fabrication ont été arrangés, voire falsifiés au Creusot.
C'est-à-dire ?
Je vais vous donner un exemple particulièrement grave. Un jour, une pièce est sortie trop courte de la forge. On ne pouvait pas en couper les extrémités, comme on le fait normalement pour éliminer les impuretés dans l'acier. Or, on a décidé de livrer quand même ce générateur de vapeur à EDF sans rien dire. À l'ASN, Julien Collet se souvient de sa stupéfaction quand il a appris cela.
Ce qui est sûr, c'est que cette pratique-là, voilà, elle est dans un écart tel avec ce qu'on attend d'un fournisseur de ce niveau qui fournit les équipements avec de tels enjeux qu'on a presque du mal à y croire. En même temps, Creusot était sous le feu d'un certain nombre de projecteurs, donc voilà, mais quel que soit l'acteur du nucléaire, on ne s'attendait pas effectivement à observer de telles déviances.
Une déviance qui a entraîné l'arrêt du réacteur numéro 2 de la centrale de Fessenheim sur ordre de l'ASN le temps qu'on vérifie la pièce en question.
Mais des déviances de ce type, il y en a beaucoup ?
Alors pour l'instant, on a repéré une petite centaine de dossiers falsifiés ou irréguliers concernant les centrales françaises. Des faits suffisamment graves pour que l'ASN alerte la justice. Une enquête préliminaire est ouverte et plusieurs associations ont porté plainte contre EDF et contre Areva, notamment pour usage de faux et mise en danger délibéré de la vie d'autrui.
Donc on verra au final ce qu'en dira la justice. Maintenant, en attendant, comment Areva explique qu'on ait ainsi pu trafiquer des dossiers ?
Eh bien, on dit qu'il y avait dans cette usine une culture de la négligence, que ça a toujours été comme ça. Le géant du nucléaire aurait été victime des traditions locales, en quelque sorte, explique David Aymon d'Areva.
Quand on rachète l'usine du Creusot, on n'identifie pas des pratiques irrégulières comme on les a découvertes en 2016. En 2016, on met en évidence qu'il y a des pratiques irrégulières qui existent depuis des décennies, des pratiques qui sont inacceptables d'un point de vue culture sûreté, d'un point de vue des cultures de l'assurance de la qualité. Donc c'est des pratiques qu'on ne tolère pas dans notre industrie. Et on voit que dans cette usine, on n'a pas eu cette culture sur toute la période.
Attendez, je rêve là, Sylvain. C'est Areva qui est responsable de cette forge et qui vous explique, comme si de rien n'était, qu'elle a laissé prospérer une culture qui remonterait à des années.
Oui, et ça, ça fait bondir l'ancien directeur de la forge, René Dumont, qui a travaillé près de 30 ans.
Accuser les gens qui ont fait vivre cette forge pendant des décennies, qui ont fourni des tas de pièces dans le monde, dire qu'on avait mis en place un système uniquement basé sur la magouille et la falsification, c'est de la calomnie. Voilà, c'est de la calomnie, mais c'est surtout, je pense, le désir de camoufler ses propres manquements. Le coup des calottes Flamanville, c'est un vrai manquement. Qu'ils aient fait cette connerie-là, ça les regarde. Mais dire que c'était une manie qu'on avait dans le temps et qu'on magouillait, je vois pas bien comment on aurait pu magouiller des trucs comme ça pendant des années.
Ouais, d'autant plus que les malfaçons les plus sérieuses, elles ont en fait été constatées assez récemment.
Oui, et au Creusot, on a confirmé que cette légèreté dans les procédures qualité, on les observait jusqu'à il y a peu. C'est ce que m'ont raconté plusieurs salariés, dont Christian de Mézières, c'est un vieux de la vieille du nucléaire. Il a été très surpris de ce qu'il a découvert quand il est arrivé comme technicien à l'usine du Creusot il y a seulement 5 ans.
Moi, je n'ai pas retrouvé la culture que j'avais connue dans les autres entités Areva et Framatome auparavant. Ce n'était pas la même chose. Moi, auparavant, quand on faisait de la maintenance en milieu irradié, c'est clair, précis. Déjà, vous êtes formé, vous êtes entraîné, vous avez des habilitations pour chaque type d'opération. Il y avait des contrôleurs par équipe pour chaque opération. Ici, non. Et s'il y a tant de dossiers qui ont des soucis, c'est qu'il y a eu forcément des dérives au niveau de la qualité.
Oui, ces dérives dont on vient de parler, Sylvain, faut préciser que d'autres les ont identifiés, des étrangers d'ailleurs, pas seulement des Français.
Oui, en faisant des recherches, je suis tombé sur un rapport de 2009, une inspection de l'usine du Creusot par l'autorité de sûreté américaine, la NRC.
Oui, alors là, peut-être faut expliquer pourquoi les Américains.
Alors, en 2009, il faut rappeler que Areva ambitionne de vendre des EPR aux États-Unis. Bon, finalement, elle n'en vendra aucun, mais la NRC vient en Bourgogne et son rapport est sévère. Il explique notamment que la forge maîtrise mal le refroidissement de ses pièces. Et ça, ça peut avoir des conséquences sur la qualité de l'acier.
Bon, mais alors là, Sylvain Tronchet, si la SN a envoyé des courriers, on l'a vu, si Areva était informé, averti de la situation, si même les Américains estiment que la forge n'était pas fiable, alors je repose ma question, comment, dans un secteur aussi sensible, on a pu agir avec autant de légèreté ?
Je suis allé voir quelqu'un qui le connaît bien, ce secteur. Il s'appelle Bernard Laponche. C'est un polytechnicien, il est docteur en physique nucléaire. Il a participé à la création des premiers réacteurs français. Il est aujourd'hui très critique sur cette industrie, dont il dit qu'elle vit en vase clos, ce qui permet précisément ce genre de dérive.
Vous n'avez pas du tout de contrôle indépendant. Les mesures de contrôle sont faites par les organismes mêmes. Il y a très peu de regards extérieurs. Les groupes permanents d'experts de l'autorité de sûreté, ce sont des gens du nucléaire de façon très, très générale. Et donc, il n'y a à la fois pas de regard extérieur, ou très peu, et pas d'arbitrage externe, puisque le gouvernement et son administration ne veulent pas entendre parler du risque nucléaire. Et donc, ça repose sur l'autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN, qui sont quand même soumis à des pressions et qui sont indépendants jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que tout ça reste quand même dans le milieu nucléaire.
On serait donc dans un milieu très fermé où l'ASN aurait finalement peu de pouvoir.
En tout cas, peu de pouvoir d'investigation. Je vous donne un exemple. Actuellement, on reprend tous les dossiers de fabrication de l'usine du Creusot parce qu'on se dit qu'il y a peut-être eu d'autres falsifications. Et vous savez qui mène cet audit ?
Non.
C'est Areva. Et pour Cyril Cormier de Greenpeace, ça pose un problème de crédibilité.
Comment faire confiance ? On ne peut plus avoir confiance en Areva là-dessus. C'est donc pas la bonne méthode pour mener les tests. Et on peut supposer que de cet audit ressortent finalement trop peu de choses par rapport à la réalité des défauts de production de l'usine Creusot-Forge.
Et ce n'est pas tout. Ces derniers mois, on a fait des tests sur certains générateurs de vapeur dans les centrales parce qu'on y soupçonnait des malfaçons. Vous savez qui les a fait ?
Areva.
Et là aussi, ouais. Un laboratoire appartenant à Areva.
Ce qui s'appelle être jugé parti.
Oui, mais en fait, tout ça, c'est considéré comme normal dans le nucléaire français où la doctrine repose sur un principe. L'industriel est sincère et il déclare lui-même ses problèmes. Et en face, l'ASN a trop peu de moyens, dénonce Bernard Laponche.
Elle a 58 réacteurs existants à suivre. Elle a les nouveaux chantiers type EPR et même ITER à surveiller. Elle a toutes les usines du combustible, l'usine de retraitement, l'usine d'enrichissement, l'usine de traitement du minerai, toute la médecine basée sur les rayons, et ils sont à peu près 400. À partir du moment où on s'est aperçu que tout ce système déclaratif était quand même pas très fiable, puisqu'il y avait des falsifications et personne n'a déclaré quoi que ce soit, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des contrôles beaucoup plus forts et donc des présences beaucoup plus fortes. Et pour ça, il faut des gens.
Ouais, des gens, mais c'est juste un problème de personnel.
Non, c'est certainement plus profond que ça. Hein. Ça implique de revoir toute la chaîne de contrôle du nucléaire français, estime Julien Collet de l'ASN. Surtout si on a affaire à des entreprises qui ne jouent pas le jeu.
On a un opérateur qui est non pas dans une logique d'identification et de traçabilité de ses écarts, comme ça devrait être le cas, mais qui est dans une logique où les anomalies, quand elles sont suffisamment graves, plutôt que de les traiter, on préfère les cacher, les mettre sous le tapis. Et ça, ça réinterroge vraiment la manière dont nos inspecteurs doivent mener leurs investigations. Clairement, il faut qu'on complète notre arsenal. Alors, c'est un travail qui est vraiment en cours. Et notre idée, c'est effectivement d'ici l'été, de disposer effectivement d'un plan d'action pour prévenir à l'avenir ce type de situation.
Oui, l'ASN se demande comment être plus efficace. Maintenant, en attendant, Sylvain Tronchet, il va bien lui falloir décider de ce qu'elle va faire de cette fameuse cuve de Flamanville. Est-ce que, oui ou non, on va la mettre en service ?
Il y a trois solutions. La première, c'est l'ASN valide la cuve, EDF et Areva respirent. La deuxième, c'est l'ASN valide, mais impose au réacteur de ne pas tourner à plein régime pour ménager la cuve. Là, ce n'est pas très bon pour EDF et Areva qui veulent faire de Flamanville une vitrine. Et puis la troisième, c'est l'ASN retoque la cuve. Là, c'est la catastrophe industrielle, mais personne n'y croit vraiment, et surtout pas Cyril Cormier de Greenpeace.
Aujourd'hui, on dit à l'ASN, à vous de valider ou non l'utilisation de la cuve de l'EPR, mais on lui dit attention, si vous ne validez pas la cuve, c'est l'EPR, le chantier de l'EPR de Flamanville qui prend des années de retard et donc des milliards d'euros supplémentaires. C'est sans doute la construction d'un nouvel EPR à Hinkley Point en Angleterre qui tombe. Et c'est le chantier de Taishan en Chine qui s'arrête. C'est-à-dire c'est tout le projet d'une industrie nucléaire française, le renouveau du nucléaire qui tombe à l'eau. Et bien évidemment, on sait ce qui va se passer. C'est-à-dire que personne ne peut résister à une telle pression sur des projets industriels qui engagent l'État, qui engagent des entreprises comme EDF et Areva.
Oui, personne ne peut résister, sauf que vous avez découvert que même les Anglais commencent à douter de la capacité d'EDF et d'Areva à leur forger une cuve de bonne qualité.
Oui, je me suis procuré le rapport que les agents de l'ONR, l'autorité de sûreté britannique, ont écrit après avoir réalisé une inspection au Creusot en décembre dernier. Il est dévastateur pour l'industriel français. L'ONR suggère qu'EDF envisage d'avoir un autre fournisseur pour le projet d'EPR à Hinkley Point. Et si elle le dit, c'est parce qu'elle a encore repéré des mauvaises procédures qualité au Creusot très récemment. Les Britanniques doutent qu'Areva arrive à remettre son usine sur les rails.
À suivre, en tout cas, à vous écouter, on croit rêver, ou faire un cauchemar, hein, plutôt. Merci en tout cas Sylvain Tronchet pour cette enquête, une enquête que vous pouvez réécouter ou podcaster sur franceinter.fr et puis sur l'appli France Inter, ainsi que sur le site Facebook de Secret d'Info, site sur lequel vous pouvez également nous faire part de vos commentaires. Allez, restez avec nous dans quelques instants, on va parler de toute autre chose. Nous allons nous plonger dans le monde des diamants, un monde en pleine recomposition.